Radio Okapi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Plusieurs chefs d'État et de gouvernement du COMESA échangent depuis ce matin sur l'accélération de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture, exploitation minière et tourisme résilient au changement climatique. Ceci se passe à Bujumbura. En début de ce journal, un extrait de l'adresse de Félix Tshisekedi. Le budget 2025 accorde des allocations conséquentes au secteur d'investissement, de diversification de l'économie ainsi qu'aux secteurs sociaux de base. Précision des Jésuites soumis notre première ministre congolaise que vous suivrez dans ce journal. Elle s'est exprimée ainsi sous peu devant les députés. Invité de ce journal aujourd'hui, la directrice humanitaire pays de l'ONG Save the Children en Miami. Elle nous parle du projet Tumaini. À présent, nous vous amenons à découvrir les autres contours des faits qui font l'actualité congolaise. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Auditeurs de Radio Okapi, bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, participe ce jeudi à Bujumbura au Burundi au 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. La réunion de Bujumbura accorde une attention particulière à l'accélération de l'intégration régionale à travers le développement de chaînes de valeur dans l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme résilient au changement climatique. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements, des représentants du secteur privé, des petits commerçants, des décideurs politiques et de la société civile participent à ce sommet annuel. Suivez un extrait de l'intervention de Félix Tshisekedi proposé par Jude Binster Bilanda.
La paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ses provinces de l'Est, touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région.
Nous, l'actualité nous amène dans le Nord Kivu. Vous parlez de cette préoccupation du député provincial Bikoyi Maurice qui appelle à une mobilisation tout azimut pour sauver la zone de Pinga. L'élu du territoire de Walikale réagit à la menace consécutive à l'avancée depuis plus d'une semaine des rebelles du M23 vers ce territoire à partir du groupement Kisimba. Selon lui, cette situation met en péril d'une part la sécurité des trois autres provinces limitrophes de Walikale mais aussi menace la richesse minière de la zone. Bikoyi Mukongo Maurice, joint par Bernard Nyangi.
Vous savez, Walikale, c'est le territoire carrefour entre la province du Sud Kivu, Tshopo, Maniema, et c'est le territoire le plus vaste de la province du Nord Kivu, le plus riche en minerais, en forêts, mais le plus enclavé de la province. La présence de M23 sur l'axe Pingate, ça nous choque. Voilà pourquoi je lance un appel à toutes les communautés de Walikale, des Sinur, les Banyanga, les Bakano, les Batembo, les Bakusu, les Bakumu, les Bakumbure et toutes les autres communautés qui vivent en territoire de Walikale. Nous devons nous unir pour combattre cet ennemi. Je lance un appel pathétique aux patriotes Wazalendo. En tout cas, c'est le moment. Ce qui unit les gens, c'est avoir un ennemi commun. Et l'ennemi commun est connu. Il vient d'entrer chez nous, l'M23. Utilisons toutes nos stratégies coutumières d'attente parce que la situation est très grave.
Actualité dans la province de l'Ituri. Environ 840 enfants, dont une centaine de filles, sont sortis des différents groupes armés locaux et étrangers actifs en Ituri depuis le début de cette année. D'autres ont été libérés pendant des affrontements entre les FRDC et ses miliciens. Ces chiffres ont été publiés mercredi par le coordonnateur provincial intérimaire du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire PDDRCS Ituri. Flori Kitoko ajoute que ces enfants ont bénéficié de l'accompagnement psychologique au centre des transiteurs d'orientation à Bounia avant d'être réinséré dans des familles d'accueil. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
UNICEF a travaillé beaucoup avec nous. Il a sorti plus d'enfants dans le groupe armé. 840 qui sont sortis. Nous sommes allés dans un groupe armé commanda qui nous a sorti au moins 302 enfants dans le groupe armé Chinayatuna, dont 138 filles. Même Kodeko, Chinyakilima, Autodéfense, Mai Mai. Il y a des enfants qui sont capturés par l'armée. Nous allons vers l'armée pour récupérer les enfants parce que nous avons un espace, un CTO là-bas pour les prise en charge avant de recherche familiale. Il faut comprendre d'abord l'enfant, il a quel problème. Vous n'allez pas retourner un enfant qui est déjà sorcier. Quand il rentre dans la communauté, il ne fera pas de jour, on va le tuer. L'appui psychosocial commence au sein de CTO. Et se poursuit jusqu'à la communauté. Nous avons des agents de prise en charge, comme AGDEC. Il y a des vérificateurs. Pendant la recherche familiale, on contacte la famille pour dire votre enfant qui est parti dans le groupe armé, il est chez nous. Est-ce qu'il peut revenir? Il y a des familles qui refusent. Nous sommes africains, comme il y a des familles élargies, la tante peut dire non, l'enfant de ma sœur peut revenir chez moi.
Signalons que ces enfants et des milliers d'autres attendent le programme de réintégration qui traîne faute des moyens financiers. Deuxième titre de cette édition sur Radio Okapi à Kinshasa, il est 18h06. La première ministre Judith Suminwa a présenté ce jeudi à l'Assemblée nationale l'économie du projet de budget 2025 qui avoisine les 17 milliards de dollars. Ce budget découle directement du programme d'action du gouvernement axé sur les 6 piliers matérialisant la vision du président de la République dans le but de booster le développement de la RDC, affirme-t-elle. D'après Judith Suminwa, le budget 2025 accorde des allocations conséquente au secteur d'investissement, des diversifications de l'économie ainsi qu'aux secteurs sociaux de base. On l'écoute.
Ce projet de loi de finances renseigne les principaux faits saillants ci-après. Un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements, passant de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. De 16,4% des crédits alloués au secteur de l'agriculture, la pêche et l'élevage, 13,7% des crédits alloués au secteur de développement rural, la poursuite de la mise en œuvre des grands projets amorcés tels que le PDL 145 territoire, la construction du port en eau profonde de Banana, pour relier l'est à l'ouest du pays par la construction de la route nationale RN2 Mbujimayi Bukavu, des travaux de la modernisation et d'équipement des aéroports nationaux à Mbujimayi, Kavumu, Kolwezi, Kalemi, Moba, Buta, Kenge, Mbandaka, Kikwit, Bumba, Mwanda, Lodja, Gemena et Mukamba.
Toujours au Parlement, une proposition de loi visant à garantir l'accès à l'information et la transparence de la vie publique en République démocratique du Congo déposée hier mercredi à l'Assemblée nationale. Son auteur, le professeur Jacques Joly, rapporteur de la Chambre basse du Parlement, fonde sa démarche sur l'article 100 de la Constitution ainsi que les articles 151 et 153 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Composé des 75 articles, ce texte a pour but de mettre en œuvre l'article 24 de la Constitution qui consacre le droit à l'information et la liberté de la presse. Cet article stipule que toute personne a droit à l'information et assure la liberté de diffusion par divers moyens de communication tout en respectant l'ordre public et les droits d'autrui. Santé dans ce journal. Une caravane motorisée pour célébrer le lancement officiel de l'introduction du vaccin antipaludique dans le carnet de vaccination des enfants en RD Congo a été organisée ce jeudi à Mbanzangongo, au Congo central. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les communautés et de s'assurer que le vaccin atteigne le plus grand nombre d'enfants possible, en vue de contribuer à la réduction des taux de morbidité et de mortalité liés au paludisme. D'après le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, le choix pour le Congo central pour lancer la vaccination contre cette maladie s'explique par le fait qu'il s'agit de l'une des provinces les plus touchées par la malaria. On écoute Dr Nono Koka. Il est au micro de Nana Plurechmambo.
Le Congo central, c'est parmi les provinces avec le nombre élevé de cas, mais aussi avec impact élevé, autrement appelé HBHI. Et donc, c'est parmi les 10 provinces de la RDC avec des cas élevés, avec impact élevé. Et vous allez comprendre que le Congo central, on note beaucoup de décès dits au paludisme, mais ça représente à travers le pays près de 9%. Et donc, c'est énorme sur les 26 provinces. En dehors de ces mortalités, morbidités élevées, il y a aussi d'autres deux raisons. Le Congo central est tenté d'implémenter plusieurs interventions. Il faut dire que le Congo central a distribué la moustiquaire en décembre 2023, des nouvelles moustiquaires avec des insecticides qu'on appelle les PBO et les IGD. Ce sont des insecticides de deuxième génération. En dehors de ça, nous avons d'autres interventions telles que la chimio-prévention du paludisme pérenne chez les nourrissons. Ce sont des interventions qu'on est tenté d'implémenter. Et nous voulons voir dans l'arsenal de toutes ces interventions de prévention, essayer de mettre ça tous ensemble pour que nous puissions arriver à réduire ou au finish éliminer le paludisme au Congo central.
Nous poursuivons cette édition d'actualité sur Radio Okapi avec d'autres nouvelles en rapport avec la santé. Ce 31 octobre marque la fin des activités consacrées à la sensibilisation de la communauté sur le cancer de sein. Plusieurs structures de lutte contre cette maladie ont organisé des séances à divers endroits à travers la ville de Lubumbashi. Certains hôpitaux ont à cette occasion du mois appelé Octobre Rose ouvert leurs portes pour le dépistage gratuit. Une femme de 40 ans qui était atteinte du cancer de sein au stade débutant et qui a été soignée avec succès rend témoignage et appelle les autres femmes qui souffrent à se faire dépister à temps pour une bonne prise en charge. Madame Saint-Tiche a été jointe par Jean Gandou.
J'avais des douleurs atroces au niveau de mon sein droit. J'avais constaté que j'avais une boule dans mon sein et qu'il cessait de prendre du volume et était trop dur. Je me suis rendu à l'hôpital où j'ai été prise en charge par un médecin qui m'a recommandé une pile d'examen à faire. C'est entre autres l'échographie, la napate, la mammographie et la microbiopsie mammaire pour que l'on sache ce qui en était. Heureusement que la maladie a été détectée. Il m'a été recommandé la chirurgie et j'ai été opéré. Et depuis, je me porte très bien et tout va bien. Je peux simplement dire aux femmes qui souffrent et qui constatent qu'elles ont des douleurs au niveau des seins qu'elles se fassent vite dépister car plus c'est fait tôt, plus ça peut se soigner. Moi, j'ai eu la chance de me faire dépister à temps sans attendre. Cette masse peut être soignée. Ainsi, je demande à ces femmes de faire vite et elles auront des solutions.
Pour que Baba consulte n'a pas de solution bien avant.
Octobre Rose 2024 encore. Ce mois consacré à sensibiliser la communauté surtout les femmes sur le danger du cancer de sein a été bien vécu au Maniema. Dans l'amphithéâtre Mapon de l'université de Kindu, le personnel féminin et d'autres acteurs ont été sensibilisés sur cette question au cours d'une conférence de débat. Il a été question de montrer aux participants les facteurs de risque, les signes d'appel, l'alarme et le mot de prévention de cette maladie, comme nous le dit Florence Kizalunga.
Dans son exposé, la gynécologue obstétricienne Dr Olive Mbambula a montré que le cancer des seins existe bel et bien dans la communauté.
Le cancer des seins existe. Les femmes doivent chercher à faire le dépistage tôt. Plus le dépistage se fait précocement, la prise en charge est précoce aussi. Et la prise en charge sera précoce, ainsi le pronostic sera bon.
Pour les participants, cette occasion leur a permis de prendre connaissance du cancer des seins. Sylvie Kaloumé.
Cette occasion nous a permis de prendre connaissance de l'existence du cancer des seins. Parmi les femmes qui ont pris part, nous en avons trouvé celles qui n'en avaient jamais entendu parler de cette maladie et de tous les risques que celle-ci représente. À travers cette conférence, nous venons de prendre connaissance des facteurs et des initiatives à prendre pour parvenir à prévenir cette maladie.
Le recteur de l'université de Kindu donne les motivations de cette activité. Professeur Dokrasias Kimenia.
Étant donné que c'est une calamité naturelle maintenant, qui décime des populations, c'est aussi une cause réelle de mortalité aujourd'hui. Voilà pourquoi l'université, en tant qu'une structure de recherche, a trouvé qu'il était nécessaire qu'on organise une conférence exploitant cette thématique-là.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Avant de passer à la page internationale de cette édition, province du Tanganyika, manifestation hier de la population à Kabimba, chef-lieu du territoire de Kalemie. D'après la société civile locale qui a organisé la manifestation, l'objectif est de dénoncer la société GLC qui produit le ciment dans ce territoire mais ne contribue pas au projet de développement des communautés locales. Le point avec Paul Amunanga.
Le coordonnateur de la société civile Force Vive du territoire de Kalemie souligne qu'en 2023, la société GLC avait refusé de signer un protocole d'accord avec la communauté locale pour contribuer au projet de développement communautaire. En revanche, le coordonnateur de la société civile précise qu'ils ont élaboré un calendrier avec GLC pour exécuter certains projets de développement au bénéfice de la communauté locale. Mais il souligne que la société GLC n'a pas respecté ses engagements. Kisika Lumumba.
Vu le refus de signer le protocole d'accord, vu le non-respect du calendrier d'application de tous les avantages relatifs tels que adduction de l'eau potable prévue en novembre 2023, installation de courant dans la cité de Kabimba prévue en mars 2024, asphalter les routes principales de Kabimba prévues en juillet 2024, favoriser l'épanouissement des activités artisanales, des pêches, élevage, agriculture prévues en janvier 2024, nous nous sommes décidés de faire une manifestation.
Radio Okapi n'a pas pu joindre les responsables de la société GLC. Signalons que la société civile du territoire de Kalemie a remis à l'administrateur du territoire un mémorandum exprimant les préoccupations de la communauté. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des graves crises alimentaires menacent des centaines de milliers de personnes dans les régions vulnérables, notamment dans les territoires palestiniens, au Soudan du Sud, en Haïti et au Mali, où les populations sont confrontées à la famine et en sont proches, selon un rapport des agences alimentaires des Nations Unies publié jeudi. Les conflits, l'instabilité économique et les chocs climatiques combinés à la réduction des financements pour l'aide alimentaire et agricole d'urgence entraînent des niveaux alarmants d'insécurité alimentaire aiguë, met en garde le rapport. Et puis, 8 mineurs sont morts après avoir été ensevelis sous des monticules de terre qui se sont effondrés sur eux dans une mine de cuivre à ciel ouvert en Zambie mercredi, a déclaré la police. Un mineur est porté disparu et deux autres ont survécu, a déclaré le commissaire de police provincial Pisuel Mwemba. Les médias d'État ont rapporté que 6 mineurs décédés dans la mine de Chingolai, une ville de la province de Copperbelt, appartenaient à la même famille.
L'invité.
Nous recevons comme invité la directrice humanitaire pays de l'ONG Save the Children International, Oana Miyai. Elle nous parle du projet Tumaini qui signifie espoir. Elle s'entretient avec Bernadette Nyangui.
Madame Oana, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous parlez de projets que vous exécutez en consortium, notamment en faveur de plus de 350 000 personnes déplacées dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Est-ce que c'est un projet qui commence ou bien c'est une suite?
Effectivement, aujourd'hui, on avait le lancement de ce projet financé par le Bureau des affaires humanitaires des États-Unis d'Amérique. Le projet s'appelle Tumaini, Espoir en Swahili. Et c'est un projet qui est mis en œuvre par donc Save the Children, mais notamment avec ses partenaires MEDER, AMC et CARE International, et aussi en partenariat avec 8 ONG locales et nationales congolaises. C'est un projet qui est très ambitieux, en fait, qui vise en fait à soutenir environ 1,2 million de personnes, pour la plupart des déplacés, des personnes vulnérables. Le projet en fait aura un focus surtout sur les groupes tels que les femmes, les enfants et les personnes vivantes avec un handicap, comme vous l'avez mentionné aussi, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, où les besoins humanitaires et les indicateurs aussi de la crise humanitaire sont les plus sévères en RDC.
Là, vous avez parlé d'environ 1,2 million de personnes.
Oui, donc en fait, c'est un projet qui sera mis en œuvre sur 2 ans. Et quand on parle de déplacés et des personnes vulnérables, ce sont les personnes qui vivent directement donc dans des camps de déplacés. Mais comme vous le savez, il y a une grande partie des déplacés aussi internes en RDC qui vivent dans les familles d'accueil. Donc pour nous, l'appui qu'on aura, notamment à des structures de santé, à des structures de protection, c'est un appui qui visera en fait à soutenir la population, mais notamment la population déplacée, qu'elles vivent en fait en famille d'accueil ou qu'elles vivent en camp de déplacés.
Et là, ce sera donc le médicament, la nourriture et quoi encore?
Le projet a 4 volets basés sur les analyses et l'évaluation, notamment des évaluations multisectorielles, des besoins donc des populations vulnérables et des populations déplacées. Il y a un premier secteur qui est un secteur notamment couvert par rapport à la question de la nutrition, infantile et maternelle. Il y a un secteur sur les questions de santé, notamment à travers l'appui aux divisions provinciales de la santé, mais via les centres de santé, les structures sanitaires, les hôpitaux généraux. Il y a aussi un secteur qui visera en fait à soutenir des activités de eau, hygiène et assainissement, notamment que ce soit dans les structures de santé, mais aussi dans certains camps de déplacement. Puis finalement, il y a un secteur qui couvre tout ce qui est la protection donc contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles, mais aussi la protection de l'enfance. Donc ces quatre secteurs sont des secteurs qui sont où chacune de nos organisations internationales a le lead, mais nous travaillons en consortium, donc c'est-à-dire qu'on essaye de travailler en puzzle, donc que nos activités en fait se complètent et se complémentent. Donc les secteurs, par exemple, si vous prenez la santé et la nutrition, ont beaucoup d'activités qui communiquent les unes avec les autres, parce que par exemple, vous ne pouvez pas avoir la santé maternelle et de l'enfant sans passer par une bonne nutrition des enfants.
Alors pour Nord Kivu, par exemple, vous ciblez où? Est-ce que c'est la ville de Goma ou bien Lubero? Pour l'Ituri, vous ciblez où?
Le projet, en fait, en soi, même si c'est un projet qui est sur 2 ans, en fait, c'est un projet d'aide humanitaire et d'assistance humanitaire. Et le projet, en fait, se veut flexible en soi. Cette flexibilité, donc, qui nous est permise aussi, comme je disais, par le financement de USAID, nous permet aussi, en fait, de réajuster nos zones d'intervention selon les besoins. Vous savez que les déplacés, surtout ces derniers 18 mois, il y a eu des mouvements pendulaires, mais il y a eu aussi des déplacements dans des nouvelles zones. Donc, nos activités suivent un peu les déplacés, mais nous travaillons, en fait, en complémentarité. Pour l'instant, on a des zones qui ont été identifiées dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, donc basées sur le nombre de déplacés officiels. Et, par exemple, pour le Nord Kivu, actuellement, on parle de la zone de Nyiragongo, il y a aussi des acteurs en Kiroche, dans Masisi, dans Rutshuru. Pour le Sud Kivu, on parle surtout de la zone de Minova, qui est une zone qui a reçu plus de 300 000 déplacés internes dans les derniers mois. Mais comme je disais, vraiment, le projet est très flexible en soi. Donc, on suit, en fait, les besoins selon la sévérité des indicateurs des besoins humanitaires.
Si le lancement, c'est aujourd'hui, nous sommes déjà fin octobre. Donc, à partir déjà de début novembre, vous êtes sur le terrain.
Le projet, en fait, a commencé au mois de juillet. Mais il s'est agi, en fait, d'avoir soit une continuation pour les organisations qui étaient déjà présentes dans les zones concernées par le projet, ou bien de relancer certaines activités dans des zones où malheureusement on n'avait plus des financements en suffisance pour pouvoir intervenir.
Madame, merci.
Merci à vous.
Et c'est voilà qui met un terme à cette édition des journaux sur Radio Okapi. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.